Bonjour à tous, bienvenue, il est exactement 11h, on est en direct sur la French Radio, derrière les mots, Alain Stouchon et Laurent Voulzy. Bonjour Jean-Guillaume.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
Je sais que vous aimez ça.
Stouchon Voulzy.
Ouais.
Ah bah écoutez, moi je suis parti de la génération qui a été bercée dès les années 70 par Rock Collection et c'était quoi c'était quoi son succès de l'époque, son premier grand succès, je sais plus.
Full Sentimental.
Dans les années 70 c'était Bidon je crois.
Je pleure
tout le temps que je suis bidon. Comme un tout petit enfant qui aime ses jouets, sa vie, sa mort.
Exactement, mais ça on aurait.
Carrément méchant, voilà. Jamais content.
Et exactement, ça, jamais content. Et voilà, et Rock Collection, mais je vous le passerai tout à l'heure.
Non, c'était J'ai 10 ans. Le premier
j'ai
c'était
10 ans. Eh ben, je vous les passerai tout à l'heure. Voilà. Allez, c'est noté. Allez, c'est noté. On va se faire un petit peu de.
Après les infos, quand même.
On va se faire un peu de rétro. Bon, on a un petit programme bien chargé aujourd'hui. Disons les choses. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, écoutez, il est 11h01. Je pense que nos auditeurs doivent attendre les infos de la rédaction de Paris. À tout de suite, on se retrouve dans quelques instants.
La French Radio, la radio de tous les francophones au Portugal. La French Radio, votre radio. Notre radio.
Bonjour à tous. Plus de 20 000 personnes dans les rues de Paris hier soir pour demander que justice soit faite dans l'affaire Adama Traoré. Ce jeune homme mort après son interpellation il y a 4 ans. Mobilisation massive alors qu'à des milliers de kilomètres, la mort de George Floyd met le feu aux poudres. La journée mondiale du vélo, c'est aujourd'hui. Vous verrez que la bicyclette a le vent en poupe en France, en cette période de déconfinement. D'autant que le gouvernement encourage les Français à s'y mettre. Et puis c'est l'un des pays européens les plus touchés par le coronavirus. L'Italie souhaite peu à peu tourner la page de l'épidémie. Le pays rouvre ses frontières dès aujourd'hui, indispensable pour relancer un secteur touristique en berne. Elles étaient plus de 20 000 personnes rassemblées hier soir sur le parvis du tribunal de Paris pour rendre hommage à Adama Traoré, ce jeune homme mort lors de son interpellation dans le Val-d'Oise il y a 4 ans. Une nouvelle expertise médicale met en cause les gendarmes. Une mobilisation massive donc hier soir, mais qu'attendent celles et ceux qui ont participé? Eh bien écoutez, Dominique Sopo, le président de SOS Racisme.
Je pense que la mobilisation de fait, elle a réuni des gens qui sont venus sans doute pour des motifs différents. Il y a spécifiquement le cas de Adama Traoré. Le deuxième élément, c'est qu'on est évidemment dans un contexte plus général aujourd'hui avec les mobilisations qui ont lieu aux États-Unis autour de la mort de George Floyd et une forme de réveil sur les questions de racisme au sein de la police. Je pense qu'au-delà d'un cas judiciaire spécifique, il y a la demande par les manifestants que cesse ces rapports dégradés que la police entretient avec la population, notamment envers les populations d'origine immigrée, jeunes et habitant les quartiers populaires.
Des propos recueillis par Boris Karlamov. En parallèle aux États-Unis, Donald Trump est accusé de souffler sur les braises de la contestation. Le président américain menace de déployer l'armée pour amener l'ordre dans les rues. Des menaces qui ne semblent pas fonctionner, puisqu'hier soir, des dizaines de milliers de personnes ont une nouvelle fois manifesté contre les violences policières, 9 jours après la mort de George Floyd. Retour en France où l'application Stop Covid a déjà été téléchargée par 600 000 personnes. Il s'agit d'un très très bon démarrage selon le secrétaire d'État au numérique Cédric O. Pour que le dispositif soit vraiment efficace, il faudrait que plusieurs millions de Français l'installent sur leur smartphone. Vous vous y êtes peut-être mis depuis le déconfinement. Le vélo séduit de plus en plus les Français. Prendre sa bicyclette pour faire des courses, de l'exercice ou pour aller travailler. Si certains ont sauté le pas, d'autres hésitent encore. Pourtant, le gouvernement vous donne un coup de pouce pour vous mettre ou remettre en selle, Manon Bacourt.
Et c'est justement le site coupdepoucevelo.fr qui va vous assister dans votre démarche éco-responsable. La plateforme vous met en lien avec des réparateurs agréés tout près de chez vous via une carte interactive et vous propose même une aide financière de 50€ pour la réparation d'un vélo. Une mesure qui fait partie d'un vaste programme lancé par le ministère de la Transition écologique et solidaire pour un montant total de 20 millions d'euros. Alors pour les plus réfractaires ou les moins initiés en tout cas, une séance d'1h30 à 2h pourra être dispensé par un moniteur agréé et ce, gratuitement. De quoi reprendre suffisamment confiance pour enfourcher votre monture dans le flot de circulation.
Manon Bacourt. L'Assemblée nationale vote en première lecture le don de congés aux soignants, des dons possibles sous forme de chèques vacances. Un texte de La République En Marche jugé hors sujet par la gauche au vu des difficultés de l'hôpital. Mais selon la ministre du Travail Muriel Pénicaud, cet acte de générosité permettra d'en même temps de contribuer à la relance du secteur du tourisme. Le tourisme, on veut le relancer le plus rapidement possible en Italie, où les frontières rouvrent aujourd'hui. Nouvelle étape du déconfinement, mais surtout une étape indispensable pour relancer l'économie dans le pays. L'Italie qui prend d'ailleurs un peu d'avance sur ses voisins européens, Mathieu Bellissario.
Oui, une réouverture anticipée et sans quarantaine pour les voyageurs venus de toute l'Europe. Reste que cette décision n'est pas vue d'un très bon œil par les autres pays européens. Ils attendent pour la plupart le 15 juin pour décider d'une réouverture de leurs frontières. C'est le cas notamment de la France. De son côté, malgré son cavalier seul, l'Italie pousse à une reprise coordonnée et accélérée des déplacements en Europe. Car le temps presse, il faut absolument amorcer une reprise à l'échelle continentale du tourisme, un secteur clé pour l'économie italienne, aujourd'hui à genoux, mais aussi pour l'ensemble de l'Europe, première destination au monde, on le rappelle. Un secteur qui représente près de 10% du PIB européen et 12% de l'emploi.
Et en Espagne, on reste très prudent. La réouverture des frontières est fixée au 1er juillet. Allez, on passe au sport avec un mot de foot. Jean-Pierre Papin, de retour sur le banc. L'ancien ballon d'or de 91 va entraîner le club de Chartres qui évolue en National 2, l'équivalent de la 4e division. Enfin, c'est inédit. Une femme est en tête du classement des PDG les mieux payés au monde. Lisa Hsu, dirigeante de la société de composants informatiques AMD, la Taïwanaise a perçu plus de 58 millions de dollars l'an passé, quadruplant ainsi son salaire de 2018. Voilà pour l'actualité. Très bonne journée à tous.
Voilà, très bonne journée. Bonjour, Miss Laurence, comment ça va ?
Ça va et vous ?
Eh bien, ça va très bien. Laurence vient de nous rejoindre.
J'ai cru que c'était Laurence, le plus gros salaire des PDG du...
Bah, tu vois, on peut rire. Hein.
J'étais persuadé qu'ils allaient parler de vous tout d'un coup, Pinon.
Eh ben, oui.
Bah non, même pas.
Je suis étonné quand même. Pas encore, mais elle est, mais je lui souhaite.
J'y travaille.
Elle y travaille.
La discrétion est une vertu cardinale.
Et alors, voilà. Et alors, attends, et on va faire mieux que ça. Je suis en train de faire des SMS en même temps pour notre invité qui devrait venir nous rejoindre, mais qui a un léger problème parce qu'il n'arrive pas à se connecter. Donc, je lui ai redonné les mots de passe pour pouvoir accéder au truc. Maintenant, vous savez tout, voilà, pour pouvoir qu'on puisse être relié. Alors, je demandais à Laurence, est-ce qu'elle sait quelle est, c'est quasiment imprononçable, la première chanson de Souchon. Voilà, je vous laisse le faire quand même. Essayez de dire la première chanson de Souchon.
Puis la vous première le faites en accélérant. Chanson de Souchon.
Ouais, d'accord, allez, merci.
Je m'arrête là.
La première chanson de Souchon.
La première. Bon, écoutez, vous savez quoi, tous les auditeurs, le premier qui arrive à nous le faire pendant 30 fois, il vient à l'antenne, il vient en parler, on lui fait un cadeau. Voilà. On lui offrira peut-être une bouteille avec Blue Wine. Voilà, on va s'arranger avec Blue Wine. Parce que là, franchement, c'est qu'il est vraiment bourré pour y arriver. Parce que sincèrement, moi, j'ai essayé, j'y arrive pas.
Ça s'appelle Petite Annonce, la première chanson de Souchon.
Voilà, déjà, vous voyez, vous aviez faux, c'est pas J'ai 10 ans.
Mais après, elle a été rebaptisée J'ai 10 ans.
Le premier grand succès.
Après, elle a été rebaptisée.
Parce que Laurence, c'est notre Bible musicale.
Et je crois que c'était le même été.
Et après, c'est Bidon.
Rock Collection et J'ai 10 ans.
Je sens
qu'ils ont éclaté en même temps, les deux.
Voilà, le succès viendra grâce à J'ai 10 ans, S'asseoir par terre et Bidon. Voilà. Ouais. En fait, ça s'appelait Les Petites Annonces, mais ça s'est appelé après J'ai 10 ans. Voilà. C'est pour ça.
Pourquoi Les Petites Annonces ?
J'ai pas trop compris parce que finalement, ça a plus de sens avec J'ai 10 ans. Parce que...
Surtout que la première chanson commence par J'ai 10 ans. Je sais que c'est pas vrai, mais J'ai 10 ans.
Mais elle est bien, cette chanson.
Merci, c'est pas vrai. Pourquoi elle a 10 ans ? Bon, allez.
Ah bah, si tu me crois pas, t'as ta gueule à la récré.
Eh bah voilà, c'était ce que j'attendais. J'attendais la conclusion, c'est bien. Voilà. Bravo, je vous félicite. Bon, moi, ce que je vous propose, on a eu aussi une intervention de Laurent Goater. Je vous propose tout de suite de la passer. On va passer à l'intervention, puis ensuite, on retrouvera Vincent Zielinski qui viendra nous parler de l'Algarve et en l'occurrence, peut-être d'une course de voiture.
De tout ce qui se passe en Algarve.
Et de tout ce qui se passe en Algarve, on va connaître toute l'actualité.
De tout.
Il n'y a rien qui peut lui échapper. Vincent, si vous nous écoutez, on sera ravis de vous avoir en ligne. Prenez votre temps, nos stress, on va occuper. Heureusement, voilà, on a Laurent Goater que j'ai interviewé. Cette interview qui a été réalisée, pour dire les choses, hier. Et donc, on va vous diffuser aujourd'hui. Allez, à tout de suite.
Vous écoutez La French Radio.
Laurent Goater, bonjour.
Bonjour Thierry.
Alors, je rappelle que vous êtes conseiller consulaire. D'ailleurs, à ce propos, moi, je suis ravi de vous avoir sur les antennes de la French Radio parce que, comme tout à chacun, et vous tout particulièrement, vous le savez, les élections sont reportées d'un an. Comment vous le vivez ?
Bien dans le sens où, effectivement, on avait arrêté toute campagne électorale depuis pas mal de temps. On s'est surtout occupé de s'occuper de notre communauté. Donc, on a la volonté de le faire, on a la capacité de le faire. Donc, on va continuer tranquillement jusqu'au printemps prochain.
Alors, c'est un an de plus de travail, hein. Mais de toute façon, vous étiez déjà préparé.
Voilà. Et puis surtout, on était un nouveau candidat. Donc, on n'avait pas le souhait d'abandonner forcément non plus ce travail.
Ce mandat.
Donc, on est très content de le faire. Ça se passe bien. On a une ambassade qui est très réactive sur toutes les questions d'accompagnement de notre communauté. Donc, ça se passe bien. La grande question, elle est à Porto. Elle n'est pas à Lisbonne aujourd'hui. Le consul honoraire
qui a
terminé son mandat. Et donc, on souhaiterait évidemment avoir un consulat général et pas renouveler l'expérience d'un consul honoraire qui, quelles que soient ses qualités personnelles, n'a pas suffisamment de moyens pour pouvoir s'occuper de l'ensemble d'une population comme les Français du nord du Portugal.
Alors justement, si on veut essayer de traiter un petit peu ce sujet pour avoir un consul général, comment cela se passe? Que faut-il pour pouvoir en bénéficier?
C'est une volonté politique d'abord, c'est-à-dire que le consul général, il a été supprimé.
Ça ne dépend pas donc du nombre d'électeurs.
Alors ça dépend en partie, bien entendu, du nombre d'électeurs et de la vivacité de la communauté. Le consul général, il a été supprimé en 2015 par décision politique et dans un moment où la communauté des Français du Nord du Portugal n'était pas très dynamique, parce qu'il y avait moins de gens qui arrivaient, parce qu'il y avait moins de personnes au lycée, parce qu'il y avait peu d'entrepreneurs français qui s'installaient à cette époque-là dans le Nord du Portugal. Aujourd'hui, la réalité, elle est complètement inversée. On a une communauté française du Nord du Portugal qui est extrêmement active, avec beaucoup de potentiel, et c'est ce qu'il faut tous que nous fassions valoir aux autorités politiques, parce que ça, c'est vraiment des décisions c'est des choix politiques. Ça coûte plus d'argent, évidemment, d'avoir un consul général que d'avoir un consul honoraire. Je note que Samantha Cazebonne, la députée de la circonscription, a réussi à faire réouvrir un consulat général à Andorre, qui avait été fermé dans des circonstances assez similaires à celles de Porto, et constatant évidemment la nécessité d'avoir un consul général à Andorre, cette réouverture a pu être possible. Donc j'espère qu'il en sera de même à Porto.
Très bien. Alors, justement, par rapport à ça, donc on a bien compris, évidemment, que vous souhaitez avoir un consul général. Moi, j'aimerais aussi qu'on parle un petit peu de l'actualité que l'on vit aujourd'hui au quotidien. Qu'en est-il exactement? Moi, j'aimerais bien un petit peu comprendre. On parle de réouverture. Donc aujourd'hui, on le sait, on a réouvert pas mal de choses depuis lundi dernier. On est arrivé donc que ce soit les plages, on est arrivé à un certain nombre de centres commerciaux qui ont réouvert. Et puis Lisbonne, grand point d'interrogation. Qu'en est-il exactement?
C'est la région de Lisbonne, effectivement. Et le problème qui se pose, c'est que depuis un peu plus d'une semaine, l'essentiel des nouveaux cas de personnes contaminées Covid sont dans la région de Lisbonne. Donc ça évidemment, ça préoccupe et ça interpelle. Comment est-ce que dans le reste du pays, le Covid est très, très bien contrôlé? Et comment est-ce qu'à Lisbonne, effectivement, on n'y arrive pas? Alors, on a déjà un certain nombre d'explications. Le gouvernement a décidé, le gouvernement portugais, bien entendu, a décidé de s'intéresser beaucoup plus attentivement à la construction civile. Il y a probablement également plus de dissémination dans les transports publics qui sont évidemment plus utilisés dans les grandes villes à Lisbonne qu'ailleurs. Et puis, il y a un problème d'un certain nombre de banlieues où les jeunes, là, c'est pas un problème de personnes plus âgées, c'est vraiment un problème de jeunes, ont estimé que les règles de distanciement social n'avaient pas à s'appliquer à eux-mêmes. Donc, c'est fondamentalement le problème qui se pose, ce qui veut dire que le gouvernement a accepté au Portugal de faire un déconfinement maintenant à deux vitesses, c'est-à-dire qu'il y a des règles qui s'appliquent à l'ensemble du Portugal et puis des règles qui s'appliquent à la région de Lisbonne.
D'accord. Donc, aujourd'hui, on va dire, à l'heure actuelle, on ne sait pas quelles sont les mesures que va prendre le gouvernement en fonction de l'évolution ou pas du Covid.
Alors, on le sait pour l'ensemble du Portugal, à part Lisbonne, et puis on a quand même un certain nombre de lignes de pensée et de lignes claires de la part du gouvernement pour la région de Lisbonne. Alors, il a dit, le gouvernement, qu'il n'acceptait pas de la réouverture des centres commerciaux avant le 4 juin
Lisbonne.
Donc, on espère effectivement à partir du 4 juin que ces centres commerciaux pourront être ouverts. Et on espère surtout que le contrôle sur les populations qui sont en fait des populations spécifiques qui visiblement n'ont pas respecté les règles de distanciation sociale on explique que ces règles seront renforcées avec des logiques de test, voire avec un petit peu de logique d'amende et d'action un petit peu plus forte. Mais il y a clairement aujourd'hui un problème d'une partie de la population qui ne respecte pas la grande discipline que l'ensemble de la population par ailleurs a respecté jusqu'à maintenant. Alors nous les Français, il faut qu'on soit, et les francophones, il faut qu'on soit exemplaires comme toujours, c'est-à-dire que nous souhaitons évidemment qu'il n'y ait pas de mauvaises raisons de ne pas continuer à ouvrir le pays et de ne pas permettre la circulation des personnes. Donc on doit effectivement avoir un comportement exemplaire sur les plages notamment, dans la rue, garantir effectivement que on démontre que cette discipline continue à exister.
Alors Laurent, justement, moi j'aimerais bien aussi qu'on parle un petit peu des vacances, de tout ce qui, enfin, à partir, bon, on sait que la France normalement déconfine, enfin va permettre la libre circulation des personnes à partir du 15 juin. Beaucoup de gens sont en train de réfléchir à venir ou pas au Portugal pour passer leurs vacances. Moi, j'aimerais qu'on parle bien entendu de tout ce qui est aéroport. Qu'en est-il exactement aujourd'hui? On sait que la TAP avait fait initialement un premier projet principalement, l'activité était centrée sur Lisbonne. Donc, on a entendu que le maire de Porto et la région Nord s'étaient un petit peu fâchés par rapport à la TAP qui avait dû revoir son plan de trafic aérien. Donc, aujourd'hui, je voudrais savoir ce qu'il en est, si vous avez des informations par rapport à ça. Et puis, bien entendu, comme vous êtes déjà intervenu fréquemment sur l'antenne de la French Radio, nous parler de la réouverture des frontières et de la libre circulation.
Alors, on est toujours en train de lire entre les lignes sur ce domaine-là. Ce qu'on a compris, c'est qu'il y a une volonté de coordination européenne autour de la date du 15 juin pour l'ouverture. Donc, on a vu, par exemple, que ce week-end, la Belgique a ouvert toute seule, oui, sans en parler à ses voisins européens.
On a vu ce que ça a donné.
Voilà, il y a un relatif consensus, mais il n'est toujours pas officiel, autour de la date du 15 juin. Moi, j'y crois tout à fait. Cette date, aujourd'hui, le Portugal et la France sont alignés sur cette date du 15 juin. Le Portugal avait envisagé le 8 à un certain moment, et cette date du 8 n'a pas été rapportée. On sait aussi qu'Orly devrait ouvrir à partir du 26 juin, et d'une manière générale, les problèmes d'annulation d'avions se sont surtout concentrés sur la période avant le 15 juin, parce qu'effectivement, si on ne peut pas circuler librement, les compagnies aériennes ont tendance à annuler beaucoup d'avions puisqu'ils ne sont pas remplis par les seules personnes qui ont des motifs sérieux. Il faut effectivement des touristes pour faire avancer les avions.
Tout à fait.
Alors hier l'IATA, c'est-à-dire l'association des compagnies aériennes, s'est mis d'accord sur des principes de sécurité et des principes de sanitaires s'appliquant aux aéroports et aux avions. Ces principes sanitaires sont relativement évidents. Il s'agit en gros de se présenter avec un certificat, pas forcément un test, mais un certificat de santé qui indique effectivement que vous n'êtes pas symptomatique, et de conserver votre masque de l'entrée de l'aéroport jusqu'à la sortie, si vous voulez, en gros, de l'aéroport suivant, et bien entendu à l'intérieur de l'avion. Donc, ce sont des règles qui sont des règles relativement évidentes, mais qui toutes contribuent à une certaine normalisation du trafic aérien. Bon, en ce qui concerne le trafic routier, on a bien compris ce qui se passe aujourd'hui en Espagne, c'est-à-dire que le transit est tout à fait permis pour nos populations, avec une limite, on le rappelle à chaque fois, du nombre de personnes qui sont dans les voitures. On va dire, pour être sûr, deux par voiture. Il peut y avoir éventuellement un petit enfant en plus, mais on va dire deux par voiture pour ne pas avoir de risque. On sait que l'Espagne ne sera pas prête le 15 juin pour une ouverture générale de ses frontières. L'Espagne parle de la fin juin au début juillet, ouais. Juillet, mais ça ne dérangera pas, si vous voulez, une population qui part de France et qui, à partir du 15 juin, a le droit effectivement de sortir de France en principe, et puis qui est reçue au Portugal, puisqu'aujourd'hui, on accepte effectivement de recevoir au Portugal ces populations également. Donc pour moi, si vous voulez venir en vacances au Portugal cet été, venez bien entendu. Si vous voulez aller en France d'ailleurs, vous y serez aussi, tout aussi bienvenu. Et je pense que tout projet de voyage à partir du 15 juin doit pouvoir se faire sans grande préoccupation.
Bon, eh ben écoutez, c'est de bonnes nouvelles quand même que vous nous annoncez.
Alors, ce ne sont toujours pas des choses officielles. On aimerait bien avoir des écrits sonnants et trébuchants des gouvernements pour qu'effectivement on soit en situation de programmer nos vies.
Bon, en tout cas, on le rappelle, aujourd'hui, on va dire que les gens peuvent venir tranquillement en vacances cet été au Portugal. Et de la même manière, nos amis français qui résident au Portugal pourront voyager et se rendre en France sans problème. C'est bien ça.
Absolument.
Voilà. Disons les choses clairement, parce que c'est vrai que beaucoup de gens nous posent des questions. On reçoit pas mal de... Toujours, je pense que pour vous, évidemment, vous devez être débordé de demandes comme nous, comme l'ambassade aussi. Donc voilà. Puis le déconfinement, eh bien, aujourd'hui, on a bien compris que tout était en train de réouvrir. Simplement, Lisbonne, petit point d'interrogation actuel. Mais on devrait avoir rapidement une réponse dans les jours qui viennent.
Je rappelle la consultation au site de l'ambassade, puisque l'ambassade fait un gros effort d'actualiser souvent tous les jours son site, qui est très 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 complet maintenant sur toutes les questions de circulation. Donc allez toujours vous référer au site de l'ambassade, et bien entendu dans les réseaux sociaux on va le retrouver aussi, mais le site de l'ambassade c'est vraiment le dépositaire, si vous voulez, de l'information officielle et prudente telle qu'elle existe.
Voilà, et vous avez vraiment deux dossiers complets sur le déconfinement. Donc là, vous l'avez avec justement première phase, deuxième phase, troisième phase. Nous sommes dans la troisième phase, donc disons les choses. Et puis on verra bien comment les choses évoluent. Merci beaucoup, Laurent Goëter, pour être intervenu sur l'antenne de la French Radio. Vous revenez quand vous voulez pour nous donner évidemment des nouvelles, dès que l'on peut en avoir. Il y a un conseil de sécurité qui doit se tenir prochainement ?
On n'a pas de date encore prédéfinie, mais je pense qu'effectivement, entre la fin de cette semaine et la semaine prochaine, on fera certainement un point, probablement après cette fameuse décision du 4 juin.
Oui, okay, écoutez, il ne nous reste plus longtemps à attendre. Très bonne journée, Laurent. Merci à vous. À très bientôt.
À bientôt, Thierry. Bonne journée.
Au revoir. Voilà, c'était Laurent Goëter avec qui nous étions en ligne. C'est enregistré hier soir, pour dire les choses. Et on est toujours aussi dans l'attente aujourd'hui à Lisbonne. J'ai vu qu'à Cascais, par contre, il y a eu quelques petits soucis, parce que la presse en a fait l'écho. Vincent Barros, ce matin, en parlait aussi dans le journal, que les stations-service, les jeunes avaient tendance à se réunir dans les stations-service. Donc, il avait fallu les fermer. N'est-ce pas, Jean-Guillaume ?
Fermer les jeunes ou les stations-service ?
Fermer les stations-service pour empêcher.
Oui, ils vont plus vendre d'alcool, c'est ça ?
Parce qu'en fait, ils venaient chercher un petit peu d'alcool ou essayer de...
C'est vrai que j'ai vu ça pendant le confinement, pays, j'allais courir du côté de Guincho, et il y a une station-service là-bas vers Guilla, la Costa de Guilla, à la sortie de Cascais, et il y avait effectivement des types qui venaient boire des coups à la station-service. On se dit, mais...
Qu'est-ce qui...
C'est quand même plus sympa comme cadre. Hein, un endroit plein d'essence.
Et alors
où il y a des bagnoles qui passent. Ben, j'avais remarqué qu'il y avait des gens qui se rassemblaient. Alors, ils n'étaient pas des milliers.
Hein.
Ils étaient quelques-uns pour boire des coups sur l'emplacement de la station-service.
Moi, j'en ai profité d'ailleurs pour boire un coup, une pédrasse Salgada, que j'ai devant les yeux. Donc, un peu de publicité, ça ne fait pas de mal. Bon, écoutez, maintenant, je vous propose que l'on se déplace un petit peu. Bon, c'est vrai qu'il fait beau à Lisbonne, c'est merveilleux. Mais maintenant, on va essayer de prendre la météo en Algarve avec l'institution de l'Algarve, Vincent Zelinski. Bonjour Vincent.
Bonjour Thierry, bonjour à toute l'équipe, bonjour aux auditeurs.
On est ravis de vous avoir, Vincent. Bon, déjà, moi, la première question, c'est quel temps il fait ?
Aujourd'hui, beau soleil avec un petit peu de vent. Je regarde le thermomètre, on est à cette heure-ci à 25,6.
Donc, ça caille.
Oh, ça caille, oui. On a eu plus chaud semaine dernière, ça reste agréable, et pour se balader, quoi.
Vous allez mettre des mood boots ?
Oui, c'est prévu. C'est prévu.
Et la Canada Goose.
Il paraît que vous allez pouvoir enlever votre bonnet entre 13 et 14 heures aujourd'hui.
Ouais. Bon, c'est sympa. Mais bon, après, c'est un ensemble. Avec le masque, il nous faut aussi quelque chose de bien sympa.
Bon, Vincent, moi, je le rappelle, je voulais vous avoir en ligne parce qu'on avait vu passer un post il y a quelques jours qui nous parle d'un événement, d'une course automobile qui va avoir lieu en Algarve. Moi, j'aimerais bien effectivement que vous puissiez nous en parler, parce que je sais que toute l'actualité qui est en Algarve, elle passe par vous, en fait. Aujourd'hui, les journaux vous appellent quotidiennement pour savoir quoi dire sur l'Algarve.
Oui, c'est vrai. Je suis fortement sollicité. Bon, c'est vrai que là, j'étais un peu au chômage technique depuis la mi-mars. Hein,
comme tout le monde.
L'annulation de beaucoup d'événements, voilà. Ça commence à reprendre et là, la grosse surprise et ce qui faisait plaisir à pas mal de monde, c'est cette course sur l'autodromo de l'Algarve à Portimão, les 12, 13 et 14 juin, ce qu'ils appellent le 24 heures série de Portimão, qui réunit une vingtaine d'équipes qui viennent de Suisse, de Belgique, de France, d'Angleterre, d'Allemagne, du Portugal. Donc c'était vraiment le premier événement qui se réalisait là depuis la fin du confinement. Pourquoi je parle un peu au passé
Oui, parce que c'est marrant, ce que j'allais vous le demander. Je me suis dit, je le connais pas comme ça, Vincent. Il est
non,
pas passéiste.
Non, exactement. C'est que on était tous contents de pouvoir assister. Et je pense que même ceux qui n'étaient pas fans d'auto auraient été contents d'assister à une course automobile.
Oh,
Hier soir, j'étais en contact avec les organisateurs de l'autodromo de Algarve qui m'ont annoncé que malheureusement cette course sera à huis clos, donc sans public. Voilà, donc grosse déception parmi les amateurs de course automobile et déception parmi ceux qui auraient espéré pouvoir sortir un petit peu puis se changer un petit peu.
Mais pourquoi ils ont fait une grosse com dessus, ça? Tout le monde en a entendu tous parler, un peu dans tout le Portugal, même à l'extérieur. On parlait de cette manifestation comme étant la première manifestation, on va pas dire post-Covid, parce qu'on le rappelle quand même, attention, restez, protégez-vous, sortez avec des masques, faites attention, parce que c'est pas parce qu'on... C'est pas parce qu'il fait beau, c'est pas parce qu'aujourd'hui on nous a permis de, en tout cas pour vous, parce que moi je rappelle quand même qu'à Lisbonne les centres commerciaux restent encore fermés, qu'il y a quand même des mesures qui sont prises et qui risquent d'être prises, parce que certains parlaient même éventuellement de fermer les plages. Voilà, c'était des échos qu'on a pu entendre ces derniers jours. Vrai ou faux? Écoutez, hein, on verra ça dans les jours qui viennent.
Ça va être difficile à faire appliquer si vous prenez ça comme décision.
Mais en tout cas, il en était question. Mais alors justement, pourquoi avoir fait une telle communication et puis pouf, c'était juste de la pub? C'était un petit
je
coup,
sais pas,
un,
je
coup
sais pas,
un coup de com?
Non, mais alors moi, si je peux me permettre une réponse, moi qui suis un petit peu l'actualité du sport automobile, la Formule 1 a annoncé un calendrier réduit de 8 courses. Elles seront toutes à huis clos. Et toutes les manifestations sportives qui ont repris, le championnat de foot de Allemagne.
Oui, c'est à huis clos. Mais je suis clos, Jean-Guillaume. Mais je suis d'accord avec vous. On est complètement d'accord. Sauf que eux ont parlé qu'ils allaient vendre des places. C'est bien ça, Vincent. Vous m'arrêtez
oui,
si
oui,
je
oui,
me trompe.
C'est
ça. Ah d'accord. Ah, ils ont communiqué sur le fait que ce serait pas à huis clos.
Ah, ils n'ont pas parlé du huis clos.
Sur leur site, on pouvait. Ah, oui. Commander, acheter des places, hein. Il y avait plusieurs catégories possibles. Bon, j'ai pas été jusqu'au bout de valider mon achat, certes, mais il fallait quand même que je sache les différents prix. Et il y avait différentes options, mais ça laissait à penser que cette course serait ouverte au public, en plus en plein air, d'autant que par exemple hier on annonce la réouverture des casinos ici sur l'Algarve pour le groupe Solverde. Donc on peut se dire les gens peuvent aller au casino en milieu confiné, pourquoi pas en extérieur pour voir une course? Eh bien non. Donc la course aura lieu, les Porsche, les Mercedes, les Aston Martin, les Ginetta seront là, mais le public ne sera pas là, malheureusement.
Mais c'est
malheureusement.
Ça.
Et peut-être qu'ils avaient besoin d'un petit peu de trésor et qu'ils ont essayé de vendre des places.
Je ne sais pas. J'ai pas eu plus d'informations. Maintenant.
Non, mais les types ont eu une bouffée d'optimisme en se disant allez.
Oui. On espère. Bon, là, ce sera le cas. Bon, pareil, ce soir, Jean-Guillaume vient de le dire, le championnat, la Liga Noche portugaise reprend ce soir, en tout cas ici sur Portimão, qui reçoit Gil Vicente. Bon, là, pareil, hein, le stade, le match.
Le match à huis clos.
À huis clos, comme les 10 matchs qui restent à venir. jusque fin juillet. Donc, bon, on n'a pas ce plaisir encore. Bon, on en aura d'autres.
Non, mais il faut se rappeler une chose, hein, c'est que si le Covid a été aussi difficile et aussi meurtrier en Espagne et en Italie, il y a eu un accélérateur de l'incendie, si on peut dire, qui a été un match de foot entre l'Atalanta Bergame et le FC Valence, qui a eu lieu match aller, match retour, donc avec beaucoup de supporters espagnols en Italie et de supporters italiens en Espagne. Et visiblement, ça a été un foyer important de
virus,
de contamination du virus, de transmission du virus.
On sait
quand même qu'un supporter de foot, c'est pas ce qu'il y a de plus intelligent, et que si on en met plusieurs dans une tribune, on pourra rien leur faire faire.
Ah, vous êtes excellents, vous tous les deux. Voilà, J'ai adoré le C'est clair. Ah, c'est noté, Vincent. Hein, c'est noté.
On va espérer que la prochaine saison, qui devrait débuter mi-août, fin août, pour que ce soit l'ensemble des compétitions sportives, se fasse avec du public, ou tout au moins avec un minimum de public, quoi, pour le bien des clubs, le bien des supporters, des fidèles et autres. Bon, maintenant, seule l'évolution de la pandémie en décidera. Hein.
C'est clair. Alors, Vincent, le reste de l'actualité, alors, en Algarve, parce que là, les choses... En parlant d'actualité, c'est les actus. Vincent, ce que je vous propose, c'est qu'on reste 3 minutes 54, hein, pour être très précis. Et on se retrouve avec ensuite Barros. On aura l'actualité. Allez, à tout de suite. C'est l'heure des actus.
La French Radio Info Portugal, Vincent Barros.
Bonjour à tous, on vous propose aujourd'hui un flash spécial puisque ce mardi, cela fait exactement 3 mois que le premier cas de Covid-19 a été détecté au Portugal. Et durant ce trimestre, 800 000 tests de dépistage ont été réalisés dans le pays. Le Portugal qui figure donc à la 18e place au classement mondial des pays qui dépistent plus leur population. Le journal y rappelle ce matin que la région Nord a été le principal foyer de contamination durant la pandémie, mais que la région de Lisbonne recense désormais 3 fois plus de cas positif depuis le début du déconfinement, notamment dans des quartiers défavorisés de la banlieue lisboète. On en vient donc au bilan quotidien établi par la Direction Générale de la Santé, avec 1424 morts déplorés ce matin et 32 700 cas positifs. Le taux de létalité du virus au Portugal est désormais de 4,3%. 2 Portugais sur 3 qui y ont succombé avaient plus de 80 ans. A noter que sur les 200 nouvelles personnes contaminées recensées hier, 193 se trouvent dans la région de Lisbonne, qui suscite une vigilance accrue des autorités sanitaires. Des centaines de personnes à l'entrée des centres commerciaux. Ces files d'attente ont marqué le début hier de la 3e phase de déconfinement. La plupart des consommateurs se sont rués sur les magasins de vêtements. De nombreux citoyens aussi ont été vus à l'entrée des lojas de Cidadan pour connaître leurs droits et les aides de l'État dont ils peuvent bénéficier en cette période de transition. Enfin, l'affluence était moins importante dans les crèches hier, qui ont rouvert alors qu'on célébrait justement la journée mondiale de l'enfance. Seul un tiers des enfants s'y sont présentés. Ce retour à la vie normale attendra un peu dans la région de Lisbonne, où les centres commerciaux, les lojas de Cidadan et les crèches resteront fermés au moins jusqu'à jeudi. Le gouvernement examinera à ce moment-là le bilan épidémiologique et décidera s'ils peuvent rouvrir ou non. Le journal de Noticiage propose ce matin une édition spéciale pour marquer ce trimestre de coronavirus au Portugal. Le quotidien portugais publie 2 tribunes, l'une du président Marcelo Rebelo de Sousa, l'autre du Premier ministre António Costa. Le chef de l'État souligne d'abord que l'aide européenne sera une occasion unique pour le Portugal de changer de conjoncture, mais aussi de structure. Le pays devrait percevoir 26 milliards d'euros sur les 750 du fonds de relance proposé par la Commission européenne. Il va falloir faire preuve de bon sens, insiste le président, lorsqu'il s'agira d'utiliser cet argent pour relancer le pays avec une vision à long terme, ajoute-t-il. Le chef du gouvernement, de son côté, appelle à l'autodiscipline des Portugais pour tourner la page de cette crise sanitaire. Il faudra tourner d'ailleurs plusieurs pages, certainement pendant plus d'un an, pour venir à bout du coronavirus. António Costa annonce, je cite, qu'il va falloir redoubler d'efforts à l'automne ou cet hiver pour éloigner le scénario d'une deuxième vague. Et pour coordonner et négocier la reprise économique du pays, le Premier ministre socialiste a décidé de faire appel à un conseiller spécial qui porte quasiment le même nom que lui. Cet homme de 68 ans s'appelle Antonio Costa Silva. Il est le PDG de la compagnie pétrolière portugaise Partex. Une grande partie de sa carrière a été liée au secteur de l'énergie. Et parmi les 8 dossiers stratégiques qu'il aura à traiter, citons le transport ferroviaire, les infrastructures portuaires, la gestion des ressources en eau, les compétences numérique des petites et moyennes entreprises ou encore le renforcement des investissements dans le système national de santé. Un mot sur la météo pour refermer ce flash. Ce mardi, le ciel sera parfois très nuageux et des averses sont attendues partout dans le pays, sauf à Porto, Lisbonne et Sagres. Quelques orages ne sont pas à exclure dans les régions nord et centre. Pour ce qui concerne les températures, on attend cet après-midi 24 degrés à Porto, 26 à Coimbra, de nouveau 26 à Évora, mais aussi 24 à Lisbonne et enfin dans le sud, 23 à Sagres et 25 à Faro. Une excellente journée à tous.
La French Radio, la première radio pour les francophones à l'étranger.
Voilà, c'était les infos de Vincent Barros. Il est 11h35, on se retrouve avec Vincent Zelinski en direct de l'Algarve. Ah bah pourquoi ? Eh bah voilà, si je ne mets pas son micro, effectivement, il risque de ne pas me répondre. Je répète, en direct de l'Algarve, voilà, et ça sonne bien. Alors Vincent, alors Jean-Guillaume justement voulait intervenir et voulait vous poser, je crois, différentes questions sur... bon, on a compris qu'évidemment, l'événement sportif qui devait avoir lieu n'aura pas lieu. Il aura lieu, mais à huis clos. Est-ce qu'il y aura quand même une retransmission vidéo ? Est-ce qu'il y aura quand même une retransmission par les chaînes de télé ? Grand point d'interrogation ? On ne sait pas.
Grand point d'interrogation. Ça, aujourd'hui, je ne sais pas encore.
Cette compétition, elle est transmise par des chaînes crypto, par des chaînes payantes. On peut les trouver, sinon vous trouvez sur le net ce genre de...
Sur le net, je pense que sur le net on peut trouver, en streaming, en direct on doit pouvoir. Maintenant, je ne sais pas si une chaîne va diffuser en direct. Bon, il y a déjà une petite, seulement une vingtaine de compétiteurs, alors que normalement c'est plutôt 40 à 50, enfin en tout cas par rapport à ce qui s'est fait en 2019. Bon, maintenant, est-ce que les chaînes vont s'y intéresser ? Moi, j'espère, parce que c'est la première, comme vous l'avez annoncé tout à l'heure. Rappeler tout à l'heure, c'est la première...
Premier événement.
Après, premier événement, voilà, qui reprend au niveau européen, au niveau... Voilà, c'est...
Oui, puis les chaînes, elles ont eu tellement pas grand-chose à montrer que je pense qu'à mon avis, elles doivent être mortes de faim. Hein.
C'est clair.
Alors Vincent...
Parce que repasser les 24 heures du Mans 1974, ça va 5 minutes. Quoi.
Ouais, alors sinon, il y a autre chose. On peut peut-être demander à ce moment-là, pour faire un direct, et demander à Vincent de nous chanter la chanson de Bonnie M, Kalimba de Luna. Voilà. Eh, vous avez vu, il connaît. Hein,
c'est la chanson du jour.
C'est la chanson du jour. Hein, parce que si vous allez sur le site événements d'Algarve Portugal, eh bien, tous les jours, Vincent met une musique, hein, c'est ça, met une chanson.
Voilà, c'est pour démarrer la journée en musique.
Mais ce serait génial que vous le fassiez, vous, plutôt que de mettre la vidéo de Bonnie M. Bon, c'est bien, c'est sympa, Bonnie M, de démarrer en musique avec Bonnie M. Mais si vous le faisiez, vous, directement, ce serait encore mieux, non ?
Oui, c'est ça.
Avec la chorégraphie.
Avec la chorégraphie, en plus.
Ah, oui. Sinon, ça compte pas.
Et là, je peux vous dire que si vous le faites, non seulement je crois que tout le monde va se connecter, mais là, votre site, qui est déjà le premier Facebook site événement en Algarve, donc Portugal, je rappelle son nom, sur l'Algarve, comme vous le précisez, là, à mon avis, je crois que là, vous allez battre tous les records. Je pense que là, vous allez exploser les scores des Facebook sur le Portugal. Hein. Tout le monde va regarder.
On va essayer de rester dans le thème quand même. On revient tout doucement dans le thème depuis 2 mois et demi.
Non, parce que je trouve quand même que c'était
pas
mal.
Et pour revenir dans le thème, justement, y a d'autres événements, il y a d'autres choses qui vont se passer en Algarve ces temps-ci ?
Malheureusement non, parce que tout, bon, ça c'est au niveau national, hein, toutes les festivités sont
supprimées
jusqu'au 31 septembre, ouais. Donc certains ont essayé de trouver des parades dans certaines municipalités pour essayer de les néanmoins qu'elles aient lieu. Bon, ça, malheureusement, ça a été quasiment tous abandonnés, donc on aura partout sur toute l'Algarve, tous les plus ou moins grands événements sont annulés. On commence là un peu comme partout au niveau national, à avoir la réouverture des marchés et des brocantes qui se fait au compte-gouttes, qui se fait bien sûr avec des mesures les mesures de sécurité recommandées par la DGS. Donc ça se fait au fur et à mesure. Donc ça, c'est les seuls événements qui, si on peut appeler ça un événement, mais qui permettent de reprendre une vie normal, tout doucement, surtout que les marchés ici sont assez importants, pour tous, hein, pour les producteurs locaux.
Les marchés avaient complètement fermé ?
Complètement, oui, complètement. Alors que je parle des marchés extérieurs, marchés de producteurs extérieurs qui ont lieu par semaine. Voilà. Maintenant, ceux qui se situaient dans les bâtiments, les halles, comme on dit en ligne en France, bon, ceux-là, certains ont fermé, certains sont restés ouverts là aussi avec quelques contraintes d'horaire bien spécifiques. Mais maintenant, c'est surtout les marchés extérieurs qui intéressaient la clientèle, hein, parce que là, on retrouve vraiment les petits producteurs locaux qui vendent ce qu'ils ont eu dans le jardin de la semaine, voilà, c'est ce qui intéresse. Donc on a une reprise tout doucement. Là, ce matin, j'ai vu sur Alvor, à côté de Porto. Alors que je parle des marchés extérieurs, marchés de producteurs extérieurs qui ont lieu par semaine. Voilà. Maintenant, ceux qui se situaient dans les bâtiments, les halles, ceux-là, certains ont fermé.
Ça, c'est l'enregistrement.
Certains sont restés ouverts là aussi avec quelques contraintes d'horaire bien spécifiques. Mais maintenant, c'est surtout les marchés extérieurs qui intéressaient.
C'est fou, ça.
Allô ?
Ouais, Vincent.
Nous sommes sur écoute à tout.
Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on a eu un petit... Ouais, une petite surprise originale.
Une petite surprise, je m'entendais, je me suis dit, voilà.
Ouais, attendez, je vais voir si ça revient.
Côté de portable.
Ah bah ouais, non, mais c'est bon, écoutez, je sais pas ce qui se passe. On a un écho. Bon, écoutez...
C'est le KGB, c'est sûr.
Voilà, donc c'est aujourd'hui les seuls événements. Bon, après, on a forcément la réouverture officielle, je dis bien officielle, des plages à partir de samedi. Quand je dis officielle, c'est parce qu'il y aura la surveillance des maîtres nageurs sauveteurs et la mise en place des consignes qui ont déjà, elles, depuis mardi dernier, pour le respect de la distanciation sur le sable, le respect des capacités de chaque plage. Bon, ça, à voir à l'usage.
Oui. Et vous avez revu des touristes ou pas ?
Alors non, justement, là, pour l'instant, l'Algarve reprend vie tout doucement, mais avec les locaux, hein, bien sûr, les habitants, que ce soit les expatriés, les habitants qui viennent aussi un petit peu d'autres régions, qui ont une petite résidence, tout doucement, bon, ça reprend. Des touristes, on n'en voit toujours pas. Pour vous dire, on a vu un seul avion pour l'instant décoller. Il y en a eu plusieurs, j'en ai vu qu'un dans le ciel de l'Algarve. Donc, non, c'est vrai. Alors, c'est le gros point.
D'ailleurs, vous avez publié que EasyJet reprenait ses vols. Hein. J'ai vu aussi ça.
Voilà, EasyJet, oui, à chaque fois.
Vous avez vu, moi, je vous suis à la trace. Vincent. Hein. vous aviez plus de mal peut-être pour nous suivre, nous, parce que je le rappelle que nous, notre site, il a été gentiment piraté. Donc,
Pas très gentiment d'ailleurs.
On le dit à nos auditeurs, si vous voulez, il faut reliker la page Facebook de la French Radio Portugal, qui est à nouveau, qui, malheureusement, il a fallu qu'on reparte à zéro, mais ça remonte très vite, donc ça va. Merci à tous de nous faire confiance. Donc, pardon, excusez-moi, Vincent, c'est à vous. Vous étiez en train de me parler de l'aéroport et de son activité.
Oui, simplement, comme je l'ai annoncé, j'annonce régulièrement sur le groupe, les vols vont reprendre au fur et à mesure en provenance d'un peu tous les pays européens. Mais alors, c'est le gros, je fais une petite parenthèse, c'est le gros conflit ici sur les réseaux sociaux, surtout portugais, c'est les gens sont partagés entre le souhait de voir venir le touriste pour sauver, on va dire, l'économie et la protection de la santé. Là, c'est très partagé. Alors, il y a vraiment quelquefois des débats gentils, certes, mais il nous faut, parce que l'Algarve vit du tourisme, c'est à part, il faut, déjà la saison, normalement, aurait dû commencer depuis la mi-avril, mai, juin, et ça va aller crescendo, donc on ne sait pas ce que ça va donner, mais certains préféreraient voir moins de touristes pour protéger quand même les habitants de la région, parce qu'on est quand même une région ici avec la Lantejo qui était quand même
Oui, les moins impactés du Portugal.
Épargnés. Donc, on a un peu la crainte de voir arriver certains touristes de pays étrangers, que ce soit la France, l'Espagne, l'Angleterre, l'Italie, et puis que, bah, malheureusement, il y a une seconde vague qui s'annonce, quoi. Donc, bon, c'est un peu le... Voilà, ça, c'est vraiment, aujourd'hui, quand on regarde les réseaux sociaux typiquement portugais, sur les groupes portugais, sur les sites, ça se bat gentiment, mais je dirais que les habitants d'Algarve sont partagés.
Les restaurants, ça commence vraiment à... Les gens vont ou c'est un peu encore...
C'est encore difficile.
Ouais, c'est un peu le problème encore, partout.
Certains ont conservé le takeaway, hein, mm-hmm. malgré une réouverture. Alors, à 50% jusqu'à lundi, maintenant, ils peuvent ouvrir à 100%, mais toujours en respectant une distance entre les tables. Donc, ceux qui ont conservé le takeaway, ceux qui faisaient le takeaway, continuent gentiment. Maintenant, je dirais que les restaurants typiques portugais, qui avaient leurs habitués avec bar, plat traditionnel portugais, ceux-là fonctionnent, parce qu'il y a les ouvriers tous les jours qui viennent, les habitués. Voilà. Ceux qui sont bien spécifiques et qui sont uniquement liés au tourisme, ceux-là, pour la moitié, n'ont pas réouvert. Ouais.
Ça donne quoi, par exemple, sur la Marina
Sur la Marina, c'est...
C'est mort
C'est Waterloo, mort ne plaine, comme je dis souvent. Hein. C'est-à-dire qu'on a un restaurant ou un bar sur deux qui est ouvert.
Il n'y a personne.
La Marina, c'est vraiment l'emblème dans
oui.
comme on veut, mais typique du tourisme.
Alors, moi j'avais une dernière question, Vincent, à vous poser, parce que vous parlez aussi sur votre site de la réouverture des casinos. Comment ils vont faire? Parce que si on se met à une table de jeu, pour garder les...
Je crois que les tables de jeu ne sont pas rouvertes, justement.
Mais justement, comment ça va se passer? Parce que pour les barrières, enfin voilà, comment on va faire la barrière?
Ouais. J'ai pas la réponse sur les mesures mises en place, parce que, bah, comme vous dites, sur les tables de jeu, quand on est plusieurs autour, il y a forcément des règles à respecter.
Moi, je sais que Sandrine, qui est connectée avec nous, est une grande joueuse. Donc, si Sandrine veut aussi apporter une réponse, elle est là.
Moi, ce que j'ai vu concernant les casinos, c'est que il y avait pas de table de jeu, justement. Il y avait que les machines à sous. Et qui sont nettoyés entre chaque client. Et il y en a une sur deux ou une sur trois qui sont éteintes.
Ça, oui. Mais comment on va faire pour tout ça?
Après, les gens mettent un masque. Et puis,
mais roulettes et autres sont quand même aussi...
Ah non, ça, c'est pas ouvert, ça. Il n'y a que les
machines électroniques. Et pour les casinos, ça va être dramatique, parce que c'est quand même une partie importante de l'activité des... Et puis le poker aussi, hein, donc ça va être...
Oui. Je sais pas. Moi, je suis pas un adepte des casinos, donc
mais
peut-être juste voir par curiosité.
Oui, c'est par curiosité. C'est justement pour savoir comment ça va se passer.
Voilà. C'est le cas aussi pour tout ce qui est piscine, centre d'entraînement. Voilà, il y a les cours de tennis et autres. Bon, voilà, il y a des règles à respecter. Ça sera le cas aussi pour les parcs d'attractions, parce qu'on a aussi des très gros parcs d'attractions, Aquashow, Aqualand, Slide and Splash, qui sont ici en Algarve, qui fonctionnent, qui normalement auraient dû réouvrir au 1er mai, voire au 1er juin. Là aussi, pour l'instant, pas de date d'ouverture annoncée.
En plus, c'est des gens qui travaillent beaucoup avec les touristes, évidemment.
Non, mais là, c'est... Alors, on va quand même avoir un message positif, quand même, Vincent.
Oui.
C'est que l'immobilier, et Sandrine qui est avec nous en ligne pourra en témoigner, c'est que ça fonctionne quand même. Je pense qu'il y a de la demande aujourd'hui en Algarve. Sandrine, si vous voulez aussi intervenir, vous êtes la bienvenue. Sandrine, on a une voix.
Vous m'entendez ?
Oui, on avait une voix robot, donc c'était sympa. Mais en tout cas, d'après les agences immobilières, d'abord, le prix de l'immobilier ne baisse pas, ça c'est important de le dire. Le prix se maintient, il y a de la demande, il y a même des ventes qui se font, même à distance. Alors, on l'a vu d'ailleurs, Paris, dès la réouverture, les agences immobilières, elles ont cartonné tout de suite. Hein. Alors, je sais que Jean-Guillaume aussi est un spécialiste de l'immobilier, donc je sais
un
pas.
Éminent comment... spécialiste.
Éminent.
S'il vous plaît.
Ouais.
Oui, sur Paris, pour l'instant, il y a pas de trou entre guillemets.
On annonçait une baisse.
Les prix se maintiennent et il y a toujours de la demande. Hein,
la demande est revenue. Alors, moi, j'ai entendu sur l'Algarve, ça allait même monter.
En revanche,
donc dépêchez-vous. Paris.
Oui, non, mais c'est sûr que sur l'Algarve, en plus l'image de l'Algarve maintenant, en plus au niveau du Portugal, mais au niveau européen, avec le fait d'avoir été relativement épargné, on se retrouve avec une position dominante, hein, dominante, où là, on a ce secteur, on a été épargné, il y a le soleil, il y a tout ce qu'il faut. Donc,
Le magazine Forbes, quand même, pas n'importe lequel, vous dit clairement l'Algarve, meilleure destination au monde pour y vivre, devant le Belize et devant le Mexique.
Voilà, c'est ça.
Exactement. Et je discutais aussi avec un client qui habite à Londres et qui a l'habitude de venir pas mal à l'Algarve durant ses vacances. Et en fait, il m'expliquait qu'apparemment, ils sont tous en attente, hein, parce qu'ils attendent en fait une autorisation, un espèce de couloir aérien en fait, qui serait mis en place pour arriver sur le Portugal. Mais surtout, en fait, ils veulent éviter une mise en quatorzaine au retour du Portugal sur l'Angleterre. En fait, c'est ce qu'ils attendent tous. Ils veulent pas du tout avoir à subir ça. Donc là, ils sont en attente. Ça devrait apparemment arriver en termes de décision dans les prochains jours. Mais l'envie de venir est là, hein, en tout cas pour cet été.
Donc on va avoir des avions. Ouais.
Ok. J'espère.
Il faut qu'il y ait des avions. Sinon,
à la nage, pas terrible, hein, pour les Anglais à la barque.
Parce que l'anglais est peu nageur, hein, finalement.
Ouais. Tant qu'à faire. Mais la demande est là parce que moi, j'ai pas mal de... Alors, ils demandent tous la même chose. Hein. C'est des villas avec piscine individuelle, mais les demandes sont là, en attente, en option et en stand-by d'être
Mais aujourd'hui, ça se remplit. Aujourd'hui, il y a de la demande. Le mois de juillet, août,
énormément de demandes. Là, depuis deux semaines, c'est juste de la folie. On a d'abord eu une demande nationale qui continue à arriver en masse. Donc là, on a pas mal de personnes qui vivent au Portugal et puis les Portugais aussi qui ne vont pas sortir du pays. Donc tout le monde demande la même chose. Il y a beaucoup de demandes sur l'Algarve parce que le Alentejo est complètement full. Il n'y a pas beaucoup de produits non plus. Donc là, tout le monde se reporte sur l'Algarve. Donc ça, c'est la bonne nouvelle pour les restaurants et autres, hein, j'espère. Et l'autre bonne nouvelle, c'est qu'on est les touristes qui viennent aussi de France et qui viennent aussi de tous ces pays anglophones qui ont l'habitude de venir sur l'été. Alors, il n'y aura pas autant, mais ils chérissent tellement l'Algarve depuis des années, depuis toujours. Je doute quand même que certains, s'ils peuvent venir nous rendre visite, je doute que certains fassent une croix sur ce type de vacances, en toute transparence.
Ah, vous êtes un homme heureux, alors, Vincent.
Ça sera peut-être plus difficile à remplir,
oui,
ça va être les immeubles.
Je fais partie des gens partagés.
Vous allez avoir, en tout cas, c'est bien parce que sur votre Facebook, vous allez avoir plein de choses à pouvoir nous raconter. Parce que là, pendant les deux mois, je pense qu'à mon avis, il va y avoir pas mal d'activités. J'ai juste vu, et j'en terminerai par là, Vincent, que vous publiez aussi que les frontières avec l'Espagne ne seraient pas rouvertes avant le 1er juillet.
Normalement.
C'est pas encore confirmé.
C'était une confirmation, enfin une information hier du ministre de l'Intérieur, qui voulait se caler par rapport aux dates du ministre de l'Intérieur espagnol, pour dire si eux n'ouvrent pas avant le 1er juillet, nous on n'ouvrira pas, on ne facilitera pas les choses non plus, parce que veut mettre les gens en quarantaine. Enfin, c'est assez... Après, on rentre dans un domaine politique, c'est pour ça que j'essaie toujours de prendre ça avec des pincettes, d'essayer d'être assez clair, mais ça change tellement vite, hein, les décisions, que depuis toujours, hein, de toute façon, que ce soit terrestre ou aérien, entre le triumvirat France, Espagne, Portugal, qu'il faut toujours rester... J'espère que ça puisse s'ouvrir, parce que je connais pas mal de gens qui veulent revenir, des gens qui veulent repartir, parce qu'ils vivent ici à l'année, quoi, hein, donc en dehors du tourisme. Et puis après, on a aussi les migrantes portugaises qui sont en France et qui souhaitent, comme chaque année, et principalement au mois d'août, venir rejoindre leur famille au Portugal et aussi de façon importante en Algarve.
Bon, et ben en tout cas, Vincent, merci beaucoup pour avoir répondu un petit peu aux questions de la French Radio. On était ravis de vous avoir en ligne. Je rappelle que vous étiez donc en direct de l'Algarve et que vous êtes le docteur, le professeur événement. Ah bah attendez, vous êtes la référence. Événement.
En fait, c'est le président du conseil régional de l'Algarve.
Ah ouais, moi je pense que maintenant on peut le dire. Voilà, vous êtes devenu le président de l'office d'Algarve, parce que là, c'est quand même impressionnant. Si on veut trouver une information en Algarve, savoir ce qui se passe, eh bien on va sur votre site. Et puis alors surtout, en plus, on vous voit. On vous voit quoi ? On vous voit faire de la musique. Non.
Oui. Pas encore. À la limite, on peut me voir en tenue de footballeur parce que je fais partie d'un club de foot, SC Farens, pour pas le citer. Walking football, je précise bien, hein, football en marchant. Donc, mais c'est tout quoi. C'est les seules photos que je peux montrer. La musique, c'est pas forcément. Mais j'apprécie.
Oui, après, on sait très bien que vous utilisez d'autres sites pour d'autres types de photos, mais ça nous regarde pas. Ça.
Ouais. Mais en tout cas, Vincent, moi, je voudrais bien quand même parce que ça, c'est votre musique du jour aujourd'hui qui est sur votre site. Donc moi j'aimerais bien quand même vous entendre la santé hein, parce que là moi je le veux quand même en live hein.
Kalimba de Luna, moi, je connais pas le reste hein.
Voilà Kalimba de Luna voilà c'est la musique du jour que vous avez mis sur votre site voilà de BODM tous les jours je le rappelle et eh bien les gens vous faites vivre en même temps votre Facebook avec une musique que vous sélectionnez chaque jour. Nous on met des photos, vous mettez de la musique, c'est super, mais en tout cas vous avez vraiment une très très belle actualité sur votre site. Félicitations.
Merci beaucoup, merci à tous.
Voilà, à
merci
très bientôt beaucoup. Vincent. Et là maintenant on va se retrouver avec Sandrine qui va nous parler voyage. Bonne journée Vincent, à très bientôt.
Bonjour.
Allez, on arrête la musique. Voilà, ça y est, c'était. Voilà.
Comment
je sais pas
ça
si...
va
Eh bien écoutez, ça va super. Je ne sais pas si vous connaissez Vincent, Vincent Zelinski, mais c'est Événements en Algarve, c'est un site où il faut vraiment aller sur Facebook.
Non, je ne connaissais pas et j'ai noté du coup, parce que tout ça, je suis friand forcément.
Eh bien voilà, vous voyez, il suffit d'écouter la French Radio pour avoir les bonnes infos.
Exactement, mais vous avez toujours des super invités. Hein,
merci, mais la preuve, vous êtes là.
Voilà.
La preuve, vous
voilà,
êtes là.
Exactement. Voilà, exactement. Et aujourd'hui, on va prendre l'avion. Ça fait longtemps qu'on n'a pas pris l'avion. On ne va pas très loin, mais on va prendre l'avion si on peut.
Ouais. Et on va où ?
Et on part sur une petite île portugaise. On part à Madère aujourd'hui. J'avais envie de vous embarquer. J'avais envie de vous embarquer pour un petit city trip, un petit week-end ou un petit séjour du côté de cette jolie île. Vous connaissez un petit peu ? Vous avez déjà été ou pas ?
Alors, moi, j'ai une question quand même.
Oui,
on connaît. Alors, on connaît. Moi, j'ai une question à vous poser avant toute chose. Parce que quand on va sur Madère, on parle de quatorzaine. Est-ce que nous, si on est au Portugal, est-ce qu'on est aussi mis en quatorzaine ou ce ne sont que les étrangers ?
Alors, moi, de ce que j'ai entendu, compris et eu comme info du site de l'ambassade, ouais, c'est que non, vu que ça fait partie
du Portugal.
Bon. Voilà, exactement. Ouais, moi, si vous venez du Portugal, il n'y a pas. Par contre, si vous venez de France ou ailleurs, d'office.
Boom, hein. 14.
C'est, ouais, direct. C'est quand même assez... après, c'est vrai qu'ils n'ont pas eu quand même beaucoup
voilà,
de cas.
C'est de la protection quand même. Bon, ils n'ont pas eu beaucoup de cas. Pourquoi voilà,
enfin, c'est ça. Il faut
se protéger quand c'est le cas.
Aujourd'hui, il n'y a plus personne. Hein. Je crois que ça y est, sur l'île, tout est safe. Hein. Allez.
Ouais, allez. Ils ont réouvert tout ce qui ne réouvre pas encore ici.
Exactement.
Hein,
on vous laisse en parler. Parce qu'après, il ne faut pas oublier non plus qu'on a le journal. Donc...
Et ouais, il faut y aller. Du coup, Madère, au départ de Lisbonne, vol possible avec la TAP, Transavia, qui est censée reproposer des vols à la fin du mois de juin. C'est possible aussi, mais au départ de Porto. Donc, 2 heures de vol, tout à fait possible de partir là-bas le temps d'un week-end. On rappelle que l'île de Madère est perdue au milieu de l'Atlantique. D'origine volcanique, l'île se prête à de grandes balades sur les sentiers, donc des forêts, et elle est classée patrimoine mondial de l'UNESCO. Sa nature dévoile des piscines assez spectaculaires, donc des piscines naturelles creusées par la mer au bas de ses falaises, donc très sympa. C'est une destination couple, amis ou avec des enfants. Personnellement, donc, je conseille de louer un véhicule et vous pouvez le louer sur place ou avant de partir au comptoir de l'aéroport aussi. C'est tout à fait possible et c'est la meilleure façon de visiter l'île. Arriver à Funchal, minimum 2 nuits. Pourquoi pas tester l'hôtel de Monsieur Cristiano
Ronaldo.
Ronaldo.
Attendez, je vais juste faire une virgule quand même, si vous me le permettez. Quand vous louez une voiture, si vous pouvez louer une voiture, pas électrique, mais louer une voiture. Ah oui, électrique, c'est bien.
Mais automatique.
Oui, parce une automatique. Ça monte,
parce que Madère, c'est montée-descente. Et franchement, vous vous en sortirez bien.
Et virage-virage.
Et virage-virage. Donc, si vous pouvez prendre une automatique, ne vous privez pas.
Ouais, très, très bien joué, c'est vrai en plus. Exactement. Donc, hôtel de Monsieur Cristiano Ronaldo, rien que ça, au Pestana CR7, qui possède un emplacement privilégié sur la baie de Funchal et aussi une jolie piscine avec vue. Donc, si l'option fait un peu trop cliché dans votre tête, pas de panique. Niveau hôtel, il y a ce qu'il faut sur place, entre les magnifiques Porto Bay, Palace Belmont ou encore des tout mignons petits hôtels, boutiques hôtels remplis de charme, vous devriez trouver votre bonheur. À Funchal, ben, qu'est-ce qu'on fait ? On ne loupe pas la cathédrale, le musée d'art sacré, la chaise Saint-François, bien évidemment le marché et les magnifiques étals de fruits et de fleurs exotiques, le jardin botanique, la vallée Kural d'Ashkrenj, où il y avait une communauté de religieuses qui trouva refuge face à une attaque pirate il y a plusieurs siècles de ça. Et puis, bien sûr, le fameux panorama depuis le pic de Aarijärvi qui culmine à peu près à 1800 mètres d'altitude. Après 2 jours à rayonner sur Funchal, direction Santana, qui est nichée entre la mer et la montagne, cette ville abrite une particularité au niveau de ses maisons. Elles ont la forme triangulaire et sont appelées casas de Cormo, protégé par un toit de chaume. On a vu plusieurs fois des petites maisons typiques, on associe souvent ça à Madère. Non loin, il y a aussi le parc thématique pour tout savoir sur l'histoire et les traditions de Madère. Et puis surtout ce jour-là, n'oubliez pas de prendre vos baskets les plus confortables si possible pour emprunter le sentier qui mène au sommet du Pico Ruivo, situé à 1860 mètres d'altitude, pour admirer le panorama. Avec un peu de chance et souvent vous avez même l'impression d'être au-dessus des nuages, c'est assez sympa comme expérience. Et vous pouvez aussi aller admirer les fleurs endémiques et la rivière froide à Ribeiro Frio. Et pourquoi pas aussi visiter les grottes de San Vicente qui font partie des premières grottes d'origine volcanique, un vrai parcours souterrain. Ensuite, on revient sur Funchal, on dort sur place. Le lendemain, après un petit déjeuner copieux, on va prendre le bateau au départ du port de Funchal et la direction Porto Santo. 2 heures de traversée. Il y a une traversée par jour seulement à l'aller et au retour. Les billets, très faciles, vous pouvez les acheter sur Internet ou sur place aussi. Par contre, en période estivale, haute saison, tout ce qui est juin, juillet, août, évitez d'attendre le dernier moment puisque souvent, les billets, il n'y en a plus, c'est pris d'assaut. Et pour le budget, comptez environ 50 euros par trajet et par billet. Là, du côté de Porto Santo, on est plus sur une escapade balnéaire repos farniente. Contrairement à son île principale, vous y trouverez du sable doré. Il faut savoir que, par exemple, sur Funchal, il y a des plages, mais c'est souvent des galets ou alors quelques plages, mais avec du sable noir. Et d'ailleurs, l'île de Porto Santo, on la surnomme l'île dorée en raison de la couleur désertique de ses paysages et de sa longue plage de sable. Et pour la petite histoire, Porto Santo fut la première île en fait à être découverte par les navigateurs portugais. Donc il y demeure un véritable héritage historique important. Autrefois, elle était la plateforme avancée pour l'étude et l'observation des grands navigateurs, et en particulier pour celui qui a découvert l'Amérique et qui a vécu ici quelques années. Devinez quel navigateur je vous parle.
Allez, Jean-Pierre Colomb.
J'ai cru que vous alliez me dire Jean-Pierre Foucault.
Eh ben moi aussi, j'y ai cru. Hein. Moi aussi, j'y ai cru. Je me suis dit,
Est-ce qu'il va oser?
C'est plutôt les voitures.
Il va oser. Jean-Pierre Foucault.
Je me suis dit, est-ce qu'il va oser? Non, ça va.
Oh, il n'était pas très loin.
Notre cher est pas moins de Christophe Colomb. Voilà. Sur la côte sud de l'île, ben, on y trouve la seule plage de sable fin de l'archipel. Et toute l'année, le climat est doux et ensoleillé. Pour la petite anecdote, moi je suis partie voir le feu d'artifice au jour de l'an il y a quelques années de ça. Un 1er janvier, je me baignais sur place. Bref, donc une eau tiède et limpide invite à la baignade. Et puis on fait pratique de sport nautique, varié, on lit des bouquins, on se balade. Bah, c'est vraiment la partie. Oui, dites-moi.
Et alors vous savez quand même aussi la particularité de cette île?
Dites-moi.
Eh ben, cette île est utilisée par Renault pour développer les véhicules électriques. Voilà.
Ah ben non, je ne savais pas. Voilà, ouais. Alors, super.
C'est on peut aussi faire du traîneau dans les rues. Hein.
C'est une île qui est complètement ou qui vit en
complètement autonome
au niveau électricité. Et Renault en a fait son centre d'essai pour justement travailler sur les véhicules électriques et en même temps sur les recharges, enfin voilà, sur tout le système pour essayer. Les batteries, ouais. Et c'est l'île qui est en avance complètement pour préserver non seulement la nature, mais l'espace. Voilà, c'est un centre de recherche très, très avancé. Donc vraiment, on félicite nos amis de chez Renault par rapport à ça. On demandera d'ailleurs à son directeur de venir en parler.
Et ça, c'est une très bonne discipline. On devrait avoir des paddles et des kayaks Zoé électriques, non ?
Écoutez, Sandrine. On va lui poser directement la question et vous lui poserez cette question. Voilà, ça sera beaucoup mieux.
Ah ben, ne me tentez pas, hein, parce que... J'espère que ça me fera sourire.
En tout cas, on félicite les constructeurs engagés, justement, pour essayer de préserver la planète.
Non, mais c'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est une petite boutade, mais ça, c'est top. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Beaucoup pensent plus à l'argent et au business. Donc, quand c'est fait, c'est bien de le mettre en avant. Donc, ça, c'est vrai.
Voilà.
Donc, du côté de Paul Toussaint, niveau hôtellerie, si vous êtes en couple, je vous conseille de louer un petit appartement, les pieds dans l'eau, avec une terrasse, avec une jolie vue, qui compte à peu près, aller en moyenne, entre 80 et 100 euros la nuit. Par contre, si vous êtes en famille, faites-vous plaisir et allez au sympathique Pestana Porto Sainte, un très joli 5 étoiles, les pieds dans l'eau, avec un joli spa de qualité. Très sympa. Deux périodes sympas aussi pour partir à Madère. Forcément, le jour de l'an connu pour offrir le plus beau feu d'artifice d'Europe. Certains disent même du monde. Et la fameuse fête des fleurs qui a lieu au printemps avec des festivals, la création du fameux mur de l'espérance par les enfants qui est composé de fleurs ou encore la fameuse grande parade qui défile dans la rue principale de Fontchal.
Voilà.
C'est budget. Quand la fête des fleurs ? C'est quand la fête des
fleurs ? Au printemps, ça dépend. Généralement, vous la connaissez bien 9 mois à l'avance parce qu'elle est prise d'assaut, les hôtels sont pleins. Donc, généralement, c'est autour de Pâques. En général, c'est autour de la semaine de Pâques.
Et puis vous n'avez pas parlé du plus grand feu d'artifice
Si, le fameux.
Mais vous ne suivez pas du tout.
Je suis déçue. De façon, de le voir, un peu comme. Non, pas comme à Lisbonne du tout, parce qu'à Lisbonne, en panorama, à hauteur, non. J'ai bien étudié le sujet, donc si nos auditeurs veulent assister, c'est toute une organisation. Hein. Même si c'est Madère, 2 heures de vol, croyez-moi, c'est pris d'assaut des mois à l'avance. Et si vous ne voulez pas vous retrouver dans un restaurant glauquissime à payer 4 fois le prix et voir pas grand-chose, il faut vous y prendre à l'avance. Et j'ai 2-3 astuces pour pouvoir vous faire un jour de l'an avec un très bon rapport qualité-prix et une très belle vue. Parce que quand on part à cette période-là, ce qu'on s'achète forcément, c'est une vue aussi, quoi. D'accord.
C'est clair.
Donc, le budget avec les vols pour la semaine, 1600 euros avec des beaux hôtels. On peut faire quand même moins. Mais là, je vous ai donné, j'ai parlé du Pestana, du Belmont et compagnie. Les spécialités gastronomiques, Sandrine, mes petits coups de cœur, c'est le bol de coco que j'aime beaucoup. Petit pain à base de blé, de patates douces. Moi, ce que j'adore, c'est quand ils mettent la sauce. À l'ail, c'est juste chaud sorti de leur four traditionnel, c'est juste exceptionnel. Pour trinquer, le fameux vin de Madère qui est parfait. Moi, j'aime bien le poncha qui est à base de liqueur de fruits de la passion. Et côté sucré, vraiment très sucré, le plus traditionnel, le fameux bol de miel, de mel, qui est juste, si vous aimez le
bien. C'est le bien, ne vous trompez pas.
Faut pas se tromper. Non. Donc, voilà pour Madère. J'aurais plein d'autres choses à vous dire, mais bon, Madère, j'avais vraiment envie de vous le présenter comme une petite escapade sympa qu'on peut faire au départ du Portugal. J'avais pas envie de vous le présenter comme une semaine ou 10 jours traditionnels au départ de Paris. Ça peut être un petit week-end sympa aussi. J'ai vu que là, pour la rentrée, il y a des vols Transavia qui sont à peu près à 60-70 euros aller-retour. retour pour le week-end. Donc, ça peut être sympa avec les enfants pour changer un peu d'air, sortir un peu du Portugal.
On dit juste aux gens, attention quand même.
Vérifiez bien, exactement.
Et puis, alors, il faut savoir aussi que l'aéroport de Madère est un des 10 aéroports les
le
plus...
Le troisième, je pense.
D'ailleurs, le troisième...
ils se sont quand même améliorés.
Enfin, on est presque dans l'eau quand même. C'est pas le débat, mais
l'aéroport est très dangereux en termes d'approche.
Jusque dans l'eau, presque.
Mais... Donc, il faut le savoir que c'est quand même un des 10 aéroports les plus dangereux
au monde. On voit l'océan de près.
Et que seuls sont habilités à voler. Les pilotes ayant la qualification nécessaire pour le faire. Or, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que beaucoup de pilotes, comme il n'y a pas eu de vol ces derniers mois, n'ont plus forcément leur licence de vol. Il va falloir qu'ils repassent un certain nombre de contrôles pour leur permettre non seulement de repiloter les avions d'une manière classique, mais ensuite de reprendre une formation pour assurer des atterrissages sur la liaison. Voilà. Donc, ils risquent d'avoir un peu plus de difficultés, en tout cas avoir des vols. En tout cas, vraiment, très, très bonne suggestion.
Merci beaucoup. Attendez la rentrée et puis tentez le...
En tout cas, c'est top. Voilà, c'est une super suggestion.
On peut y aller en bateau, non ?
En été. Exactement, avec les bateaux croisiéristes là, que vous n'aimez pas trop.
Non, les gros bateaux, exactement.
Il y a des ferries au départ.
Et qui continuent sur l'Espagne, qui vont sur l'Espagne ensuite, qui vont sur, comment ça s'appelle, l'île Canaries. L'île espagnole sur les Canaries, voilà.
C'est la liaison Canaries-Madère-Portugal. Mais Maroc n'est pas très loin.
Et voilà, le Maroc, non, mais il n'y a pas de départ du Maroc, les départs sont du Portugal.
Mais bon, il ne faut pas l'oublier, cette petite île, parce qu'elle est sympa, les gens sont adorables. Allez. Faut pas les oublier, voilà.
Bon,
exactement.
Eh ben écoutez, on n'oublie rien. Super, merci Sandrine. Très bonne chronique Madère. Prochaine fois, vous nous emmènerez ailleurs au Portugal. Tiens d'ailleurs à ce propos, vendredi, on va recevoir des gens qui vont nous parler de yourtes. Voilà, des yourtes au Portugal.
Des gens de chez Danone.
On n'a pas parlé des yaourts, ou
à l'Entège, c'est les fameux. C'est ceux qui ont les yaourts où on voit le ciel depuis le lit, c'est pas eux, non?
Eh bien, vous savez quoi? Vous écouterez, c'est à 11h, c'est vendredi. Et voilà! Voilà comment comment on va gagner une auditrice. Vous pourrez même intervenir. Mais moi,
je vous écoute. Voilà. Si ce n'est pas en direct, je vous écoute quand même.
Sandrine, vous pourrez écouter parce qu'ils seront avec nous en direct. Et si jamais vous voulez même poser des questions, vous pourrez vous connecter.
Super. Il faudra leur dire que j'ai fait une super chronique sur le Alentage il y a quelques semaines. Rappeler ça à nos auditeurs.
Et on le rappelle.
Et s'ils veulent s'organiser quelque chose, qu'ils aillent sur le site de la French Radio, qu'ils s'abonnent. J'ai vu que vous aviez posté.
On a posté.
Le podcast. Donc, qu'ils aillent écouter, comme ça, ils pourront se faire un super package.
Exactement. Voilà. Et s'il y a des podcasts en retard, demandez à Jean-Guillaume.
Podcaster.
Ça va être de ma faute.
Il poste pas beaucoup.
Il va falloir qu'il le rajoute. Bon, allez. Merci Sandrine, on vous embrasse. Maintenant, c'est justement.
Bonne journée à tous. Parole
à Jean-Guillaume.
Au revoir et merci, bonne semaine.
Parole à Jean-Guillaume. Jean-Guillaume and the Blood Wine, the recette of the day.
Of the François.
C'est beau, qu'est-ce que vous avez prévu? Quelque chose de frais quand même.
Hello François.
Non, pas du tout, pas quelque chose de frais. Vous savez ce qu'on va se faire? On va se faire un financier. Non, quand même pas, un financier, un petit dessert. J'ai pris ça parce que j'adore ça. Les financiers, donc c'est des petits gâteaux.
As-tu aimé les financiers, d'amandes.
Ah oui, c'est sec, c'est léger quoi.
As-tu aimé les financiers?
Ah oui, absolument, c'est très léger. C'est rien à faire et c'est très très bon. Et moi j'aime bien l'histoire du financier, c'est-à-dire que le financier était au XVIIe siècle préparé par des bonnes sœurs à Nancy, l'ordre des visitandines. Et ces gâteaux s'appelaient des visitandines. Ils étaient fabriqués dans les couvents notamment parce qu'on utilisait à l'époque beaucoup de jaune d'œuf comme liant pour la peinture. Et donc il leur restait sur les bras beaucoup de blanc d'œuf. Et donc, les financiers, pour ça, c'était bien, parce que ça s'appelait des visitandines. Ça se fait avec du blanc d'œuf et pas du jaune d'œuf. Donc, c'était intéressant. Et ensuite, ça a été un peu oublié pendant la Renaissance, parce que pendant la Renaissance, les gens aimaient bien s'empoisonner de temps en temps. Ça permettait de régler des conflits familiaux de manière... Et comme le financier est à base de poudre d'amande, et que le cyanure, qui est le poison roi, sans l'amande, quand on vous fait manger un gâteau à l'amande, vous n'êtes pas sûr de ce que vous sentiez l'amande parce que c'est un gâteau à l'amande ou parce qu'il y a du cyanure dedans. Donc, ça a été complètement oublié. Et puis, à la fin du 19e siècle, il y a un pâtissier qui s'appelait Lannes à Paris qui a remis cette visitandine au goût du jour. Et comme sa boutique était à côté de la bourse et que sa clientèle se composait en grande partie de financiers qui voulaient manger un petit gâteau rapidement, un petit gâteau sans crème, qui ne salisse pas les doigts, il a changé la forme, qui était une forme ovale de la pâtisserie, pour en faire un rectangle qui évoque un lingot. Et il a appelé ça le financier. Voilà, voilà d'où vient le financier, pour ce qui est de
la petite histoire.
De la petite histoire. Maintenant, on va en faire un. C'est vraiment d'une facilité déconcertante à faire.
Oh, vous avez vu, c'est comme si j'étais en train de lire vos textes.
C'est vrai ?
Ouais, bah oui, vous pouvez les faire aussi, essayer de les faire.
Essayer, c'est un grand mot.
Allez, soyez tout oui.
Bon.
Je vous explique comment on fait.
Oui.
C'est super compliqué. Hein. Oh, il faut 70 g de beurre, 125 g de sucre, 120 g de poudre d'amande et 4 blancs d'œufs. C'est vous dire à quel point c'est dur. Prenez votre petite casserole, vous faites fondre le beurre, vous le faites fondre doucement à feu doux. Et quand il est bien fondu, vous le laissez refroidir tranquillement. Vous mélangez la poudre d'amande et le sucre et vous versez dessus le beurre fondu et que vous incorporez ça tranquillement. Vous incorporez les blancs d'œufs un à un dans le mélange. Donc, vous mélangez bien à chaque fois. Vous mettez tout ça dans un petit moule. Vous mettez sous un film alimentaire. Vous mettez ça pendant une bonne heure au frigo, histoire que ça refroidisse. Ensuite, vous prenez vos petits moules à financier. Alors, vous pourrez prendre la taille qui vous importe. Hein. C'est vraiment, si vous voulez faire en forme de cœur ou pire encore, vous pouvez, il n'y a pas de problème. Vous les remplissez de pâte. Vous mettez la pâte juste vraiment presque à ras bord. Vous préchauffez votre four à 180 degrés, thermostat 6. Et vous mettez vos gâteaux. Vous n'oubliez pas de beurrer les moules parce que sinon, ça va être difficile de démouler les financiers. Donc, vous enfournez une quinzaine de minutes pour garder ce que vos financiers soient dorés sur le dessus. Vous les démoulez dès la sortie du four. Vous les laissez refroidir. Et vous pouvez les manger une fois qu'ils sont frais. Vous pouvez mettre à la place de la poudre d'amande de la poudre de pistache. Vous pouvez mettre à la place de la poudre de pistache de la poudre de noisette. Vous pouvez ajouter des fraises, si vous voulez, une framboise dans chacun des moules. Vous pouvez ajouter des pépites de chocolat. Enfin, après, toutes les variations sont possibles. La base est hyper simple et les variations sont à l'infini. Seule votre imagination pourrait être un frein. Mais avec ce financier, cher François, qui est aussi l'ami financier, que va-t-on boire ?
Mes chers Jean-Guillaume, bonjour, bonjour à tous. J'adore votre dessert. J'adore.
C'est bon ça. Hein.
Ah, c'est bon. Avec la petite framboise, vous l'avez signalé. Hein. Et je suis parti sur des choses assez sucrées d'ailleurs, comme accord aujourd'hui. On va partir sur des choses portugaises et aussi françaises. Portugaises, j'ai choisi un Porto. Ouais. J'avais le choix entre Ruby et Tawny. À votre avis, lequel ai-je choisi ?
Le Tawny.
Bravo, vous êtes tous les deux perdants. J'ai choisi
vous avez pris
le ruby.
Vous savez
pourquoi ? Parce qu'en fait, est-ce que vous connaissez la différence entre le Tawny et le ruby ?
Oui, le Tawny a passé 5 ans d'élevage. Non ? Il est plus vieux, le Tawny. C'est pour
Thierry,
ça qu'il est tuilé.
Thierry, votre réponse ?
Tawny, parce que Tawny, c'est un garçon. Tawny, tu peux me passer la bouteille. Et sinon, vous dites Ruby. Mais ça fait. Ruby, ça fait un peu.
Italien, non ?
Ouais, c'est un peu ça.
Ruby.
Ruby. Alors, je vais vous dire, vous êtes très, très loin. En fait, c'est Ruby Tawny, c'est exactement le même vin. C'est le même Porto à l'origine. Eh oui. La seule différence, c'est que le Ruby est mis dans des grands barils, vous savez, immenses de plusieurs milliers de litres, donc il y a relativement peu de contact avec le bois, donc ça donne un côté plus fruité, donc on est plus sur le fruit, alors que le Tawny c'est dans des petites barriques en bois, donc beaucoup plus de contact avec le bois, ce qui donne des goûts notamment de cuivre, de chocolat. Donc vous avez d'un côté quelque chose qui est plus sur le fruit et l'autre plus sur les arômes secondaires. Donc, c'est aussi simple que ça, mais sinon, c'est la même chose. Donc, j'ai choisi Ruby parce que justement, ce que j'aime bien avec ce financier, c'est aller chercher des petits goûts sucrés. Et donc, le Ruby va être parfait pour s'accommoder de notre financier Si en plus, vous mettez une petite framboise, là, vous allez être très, très
ouais,
bien.
Ouais, c'est pas mal, ça.
Alors, il fait super chaud, donc ce que je vous conseille, c'est de boire le Porto. Je déconseille vraiment de le boire frais, c'est vraiment pas l'idée. Mais par contre, ce que vous pouvez faire, c'est mettre votre verre avant au réfrigérateur quelques dizaines de minutes. Donc, le verre sera un petit peu plus frais et ça va donner des petites sensations assez agréables. Donc, ça va être notre Porto. Et à votre avis, qu'est-ce que j'ai choisi comme vin français? Moi, de saison.
Du champagne.
J'y ai pensé.
Non. Un rosé. Oh, bah, un rosé alors.
Un rosé.
Eh ben voilà. Eh ben, oh, bah, non mais Thierry, on n'a pas le droit de copier. Hein,
ah non mais là, moi, je alors... le disais en même temps. Hein, franchement, je pensais à un rosé depuis le début.
Alors on va demander à Laurence qui va faire la juge. Laurence, est-ce que Thierry l'a bien dit en même temps?
Oui. Bon, ils ont été plus ou moins synchro. Hein.
Bon alors ça va. Alors accordé.
En fait, en fait, j'ai triché. Je voulais dire arrosé.
Ah, tu voulais arroser les plantes, bah avec le rosé, c'est pas mal aussi.
Non, je plaisante. Non, mais franchement, je l'ai dit. Je... Voilà.
Bon, il a pensé très fort, en tout cas. Moi, chez moi, c'est arrivé jusqu'à moi.
Voilà. Merci.
Et c'est Laurence qui vous avait éteint coupé le micro aujourd'hui. Ouais, voilà. C'était vraiment chacun pas de chance. Tour. Voilà. Donc, rosé de Provence, effectivement, on va partir sur un petit rosé tout simple de base qui s'appelle la Source Gabriel, qui est fait du côté de Gassin. Et ce que j'aime bien avec ce rosé, c'est que c'est un petit rosé assez abordable, mais vous avez de jolies notes d'agrumes. Et moi, j'adore le côté financier qui est assez neutre en goût, associé des goûts un peu de fruits avec, que ce soit la petite framboise dont on parlait.
Ouais, ou des vins acidité, quantiques. Une petite acidité qui va rendre le côté sucré très digeste. Oui, c'est une bonne idée, ça.
Et ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Voilà, c'était les idées du jour. Très simple, mais bien, dans l'air du temps. Idée.
Eh ben écoutez,
merci. Et merci pour la recette, je ne savais pas que c'était aussi facile.
Eh ouais, vous allez pouvoir vous y attendre.
Même un caviste devrait réussir à faire ça.
Moi je trouve que
surtout
vous
un caviste.
Et alors ouais. Moi je trouve, François, qu'en plus, quand vous livrez les gens, je trouve que ce serait bien de leur offrir avec les vins, de leur mettre un petit financier.
Je pense que Thierry a été inspiré par la recette et s'engage à vous fabriquer plein de financiers, François.
Avec un petit dessin, la French Radio dessus.
Sinon, on connaît d'autres personnes qui seront en mesure de le faire, et à mon avis, d'une manière plus parfaite. Mais
ne vous dévalorisez pas comme ça.
François, nous en connaissons quelques-uns, donc on pourra toujours les appeler pour leur demander de le faire. Mais sinon, vous pourriez faire un produit complètement personnalisé, voilà, marqué Blood Wine, et Blood Wine vous accompagne. Voilà, donc, comment mieux découvrir les vins? Je ne sais pas, ça pourrait être un truc sympa.
Alors, Thierry prolonge son stage chez Blood Wines et donc il va s'occuper du marketing et j'en suis ravi parce que c'est vraiment sa grande force. Et alors j'ai une question technique pour le chef quand même, Jean-Guillaume. Ce que j'adore, c'est le financier quand il est doré, comme vous l'avez évoqué, mais un petit peu presque un petit peu croquant.
L'intérieur est.
L'intérieur souple, mais le dessus un petit peu croquant.
Oui, le dessus doit être croustillant. Absolument.
Comment on fait?
Ah ben, c'est la cuisson, normalement, fait ça.
On rajoute pas justement un peu de plus chaud à la fin?
Non, 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 d'accord. Non. Ah ben, moi, je suis d'accord avec vous. C'est le financier, ça doit être croustillant à l'extérieur et à l'intérieur, encore mou. Après, il faut connaître son four et puis il faut en faire souvent. Mais c'est comme les cannelés. Bon, le cannelé, on sait que pour avoir ça, il faut impérativement avoir des moules en bronze, en cuivre pour les cannelés. C'est hyper difficile de faire des cannelés dans des moules qui seraient en plastique, par exemple. Et c'est pareil pour les financiers. Il faut que effectivement le moule chauffe fortement pour donner cette cuisson un peu plus rapide de l'extérieur que de l'intérieur. Donc ne faites pas de pâtisserie, à mon sens, avec des moules en silicone, en plastique, voilà, en silicone, etc. Prenez des moules métalliques, c'est vous les garderez bien plus longtemps, c'est plus joli et puis ça, c'est bien plus efficace en termes de cuisson.
Bon.
Je note.
Eh ben notez bien. Bon, tout est bien noté, tout est parfait.
Oui, tout est bien noté. On a tout noté, chef.
Oh bah vous êtes fantastique, vous êtes fantastique. Moi je vais vous proposer.
Juste, on ne sait pas qui est-ce qui fait, quel est le domaine qui fait le rosé de Provence de la Source Gabriel.
La Source Gabriel, c'est, j'en ai déjà parlé, c'est un petit peu la papesse du rosé.
Du rosé.
Notamment notamment le pétale de rose, Régine Sumer. Et ça, c'est en fait un rosé qu'ils ont fait. Et c'est ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, dans des moments un peu difficiles, on aime tous boire du rosé. Mmh. On n'a pas forcément envie de mettre une vingtaine d'euros dans une bouteille ou autour. Donc là, on est sur des rosés à 10 euros et quelques. Mais vous conservez le travail du vigneron. Donc, ce sont des vins de négociants. Généralement, je n'aime pas. Mais là, j'ai goûté et approuvé. Et en plus, un petit peu plus de puissance, un petit peu plus de fruité que le pétale de rose. Donc, c'est pour ça que j'ai pensé à ça pour aller avec le financier, parce qu'il faut aller chercher quand même quelques arômes pour l'accompagnement mets et vins.
Ouais, absolument.
Mais avec la framboise, vous savez quoi, Thierry nous fait, alors on va faire un truc, Thierry fait les financiers, je livre avec les financiers et je m'engage à apporter des framboises avec.
Bon, en tout cas, je pense que ça serait quand même une bonne chose si on pouvait même, voilà, ça serait un petit plus.
Vous savez que c'est un gâteau qui revient fortement à la mode. Hein,
ouais, mais c'est pas excessif en termes de prix et puis voilà, vous le direz, voilà, et les gens sont contents, c'est le petit truc en plus pour l'aspect gustatif, voilà. Bon, en tout cas, Blood Wine, nous, on sait où aller, principe réel, ne l'oublions pas, et puis bien entendu, on peut aller... on peut se faire livrer, il suffit juste de téléphoner. Alors, c'est même pratique.
On dit s'il te plaît.
On dit s'il te plaît, François. S'il te plaît.
On dit s'il te plaît.
I would like some wine. Je voudrais du vin. Hein ? Qu'en pensez-vous ?
Un petit sourire, ça marche.
Oui. Voilà. Tiens, voilà. Et je vous fais juste une virgule musicale. Allez, on fait une virgule musicale. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Écoutez, vous allez écouter. Voilà, on va parler d'un restaurant.
On va reconnaître. Je mangerais bien un bon onglet à l'échalote, moi.
Et moi, une fricassée de champignons, un bar grillé et un bon verre de rosé.
Et pourquoi pas un café gourmand et une planche de charcuterie en terrasse avec des amis.
D'accord, mais au comptoir parisien.
Le comptoir parisien, le bistrot parisien, on en rêve, Bélème. Face à la célèbre pâtisserie sur l'esplanade des Jardins de Bélème, une grande terrasse, accueil et cuisine bistrot Parigo vous attendent. Un kiosque offert pour tout auditeur de la French Radio qui se fait connaître. Alors, appelez vite le 213-638-279. Le comptoir parisien, service en continu tous les jours à partir de 11h. 213-638-279.